Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, les super pouvoirs des maires. Bonjour Laurence Lemouzy. Vous êtes directrice scientifique de l'Institut de la gouvernance territoriale, rédactrice en chef de la revue Pouvoirs locaux qui fête en ce moment son 30e anniversaire. Et nous enregistrons cette émission à l'occasion du Congrès des maires de France. Alors que retiendra-t-on de ce 102e congrès ? Eh bien probablement une seule chose, la visite et le discours d'Emmanuel Macron. Lui qui n'a jamais concouru dans une élection locale aura été d'autant plus observé qu'il avait fait l'impasse sur ce rendez-vous l'an dernier. Et c'est un peu le drame de l'organisation du pouvoir en France. Le pays a beau se targuer de compter 35 000 communes, d'avoir mené une politique active de décentralisation, on en revient toujours au sommet de l'État. C'est que le cordon ombilical est loin d'avoir été coupé entre l'exécutif national et l'exécutif local. Le maire dépend notamment des dotations budgétaires de l'État pour agir dans un cadre contraint par la loi. Depuis 2003 néanmoins, la Constitution leur permet de mener des expérimentations, mais un rapport récent du Conseil d'État relève que les procédures sont compliquées à mettre en œuvre, donc peu utilisées. Le projet de loi relatif à la proximité de l'action publique en cours de discussion au Parlement a-t-il vocation à donner de nouvelles marges de manœuvre à des élus locaux qui voient une partie de leur pouvoir se dissoudre dans les intercommunalités ? Les super pouvoirs des maires, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique. En votre compagnie, Laurence Lemouzy, puisque on a choisi de titrer sur ces super pouvoirs, question peut-être un petit peu compliquée, mais sur une échelle de 1 à 10, quelle note vous attribueriez au pouvoir des maires aujourd'hui dans la République ? Est-ce qu'ils font partie des hommes et des femmes fortes de la République ?
Alors je leur attribue la note de 10 sur 10 parce que je suis convaincue que la puissance publique aujourd'hui, elle est dans les territoires, elle est aux différents niveaux, en particulier des maires aux présidents de région, mais pour la raison selon laquelle, oui, la puissance publique et la France et la vivacité de la République française est dans les territoires plutôt qu'à l'échelon national, c'est-à-dire supra.
Quelle que soit la taille de la commune ?
Quelle que soit la taille de la commune, parce que on a des préoccupations à des échelles très très micro, qui sont quand même des préoccupations qui touchent la dignité humaine aussi. Il y a des personnes derrière, c'est pas que des échelons administratifs. Bien entendu, plus on monte, plus les enjeux sont importants. Mais s'il y a des super pouvoirs, on a besoin de Superman aujourd'hui par rapport au contexte national et local dans tous les endroits de France, pas seulement à la fois dans des communes de 500 et moins d'habitants et dans des super commune aussi.
C'est très gentil de valider notre titre pour cette émission.
Je vous en prie.
Vous savez, Laurence Lemouzy, nous sommes en phase de pré-campagne pour les municipales. Les maires sortants qui se représentent vont défendre leur bilan, comme le faisait, par exemple, c'était en 1970, le maire de Fontenay-sous-Bois, Louis Bayeurt.
Monsieur le maire, nous avons interviewé au hasard des rues un certain nombre de Fontenaisiens. Pour la plupart, ils semblent satisfaits de votre gestion. Qu'en pensez-vous ?
Bien, ce sont là des encouragements auxquels nous sommes très sensibles, mes collaborateurs et moi-même. Le bilan de réalisation que nous présentons à la fin de notre mandat touche, il est vrai, tous les secteurs de la vie communale. On peut prétendre que les Fontenaisiens, dans leur ensemble, ont été concernés. Nous avons réalisé dans des secteurs très importants, tels que le logement, le sport, l'aide sociale, les colonies de vacances à Fontenay sont devenues une réalité. Nous avons réalisé notamment 3 groupes scolaires, un collège, de nombreux travaux de voirie, rénover l'éclairage public sur l'ensemble du territoire communal. Nous présentons donc un bilan très riche de réalisations municipales.
Voilà, Archivina de 1970, Laurence Lemouzy. Donc c'était Louis Bayeurt qui a été maire de Fontenay-sous-Bois pendant 35 ans. Est-ce qu'il ne s'attribue pas des réalisations qui ne sont pas tout à fait du ressort de la commune ? Je pensais, quand il parle du logement, quand il parle du collège, est-ce que ça c'est du ressort des maires ? Ou en tout cas, est-ce que ça l'était à cette époque-là ?
Alors à cette époque-là, là, il a étendu son champ de compétences. On peut pas le lui reprocher. Il y avait un discours politique, mais c'est vrai que la décentralisation est passée par là. Les collèges, on le sait aujourd'hui, les départements s'en occupent, les lycées, les régions. La décentralisation a donné des petits bouts de compétences, hein. On le sait, de façon très répartie en différence, entre différents échelons. Il n'en reste pas moins que le maire est celui qui est face au quotidien et qui est de facto, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a gardé la clause générale de compétences. Il doit agir sur des secteurs, même parfois, lorsque les compétences ne lui ont pas été données.
C'est la loi qui définit les compétences des maires ?
C'est la loi qui définit. En France, c'est le législateur. Et quelque part, c'est bien l'État qui tient le stylo, qui écrit les compétences, qui les répartit. C'est bien une loi de transfert. Et d'ailleurs, ce qui pose le problème de la, en tout cas, la question de l'expérimentation, c'est qu'il y en a un petit peu assez, que ce soit toujours le même auteur qui tienne la plume. Et avec l'expérimentation, c'est une envie de dire, mais nous qui sommes face aux réalités, on a envie d'avoir des marges de manœuvre. Laissez-nous respirer, mais je crois qu'on va y revenir.
Voilà, on va justement voir comment ça se passe, comment ça se déroule, ces expérimentations. Mais avant encore, une petite question. Imaginons, je suis candidat au municipal, j'ambitionne de devenir maire. Je suis élu, youpi. Est-ce qu'il y a un texte auquel je peux me référer pour savoir quelles sont précisément les compétences qui sont les miennes ? Ou bien est-ce que c'est un travail un petit peu compliqué de documentation, Laurence Lemouzy ?
À mon avis, c'est un travail compliqué de documentation. Il y a le Code général des collectivités territoriales et puis il y a un empilement de textes. Tant et si bien qu'aujourd'hui, si on veut savoir si une commune peut intervenir dans tel ou tel domaine, souvent ça dépend d'un entrelac de lois et de circulaires, voire de décrets d'application qui, sur un seul domaine ou une seule politique publique, peuvent faire jusqu'à 50 à 60 pages. Donc effectivement, on est arrivé dans un système extrêmement complexe où les compétences des uns ont des dommages collatéraux ou des liens avec d'autres. Et par moment, il est très difficile. On va jusqu'à remonter, passer un coup de fil au ministère de l'Intérieur, à la Direction générale des collectivités locales, pour savoir si on a le droit de et comment on peut s'y prendre.
Ça veut dire qu'il peut aussi y avoir peut-être parfois des maires qui vont aller sur des terrains sur lesquels ils ne sont pas censés avoir de compétences, et peut-être aussi l'effet inverse, Laurence Lemouzy, c'est-à-dire par crainte de déborder de son champ de compétences, on ne va pas peut-être utiliser tout ce qui est à notre disposition.
Oui, alors il y a le principe quand même, hein, de la clause générale de compétences qui est cette marge qu'on leur a donnée pour intervenir en cas d'urgence dans des domaines où le législateur ne leur a pas donné véritablement compétences. Mais des fois, il y a par sécurité juridique aussi, on freine, on se dit mais est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que le contrôle de légalité ne va pas me tomber dessus ? Est-ce que j'empiète pas sur le voisin ? Et ce qui est particulier en France, et c'est ça qu'on est en train de découvrir, c'est qu'aujourd'hui un problème qui se pose au niveau local ne peut pas être résolu par un seul échelon. Il faut s'articuler à d'autres. Donc il faut dialoguer, sortir des logiques de silos, tendre la main au département, à la région et à l'interco.
Alors vous parlez de marge, il y a aussi donc cette souplesse qui est donnée par la révision de 2003 qui organise le principe d'expérimentation pour les collectivités locales, dont les maires. C'est dans deux articles de la Constitution, 37 et 72, je ne vais pas vous les lire, mais ça permet aux maires de faire quoi qu'ils ne pouvaient pas faire autrefois.
Alors là, nous sommes dans l'ordre de la légende, du mythe, de la fiction. Ça ne permet quasiment rien. Ouais.
Ah.
Pourquoi ça ne permet rien ? Parce que c'est un très joli dispositif, c'est une déclaration d'intention, mais qui s'est traduite par très très peu d'effets. Pourquoi ? Parce que n'imaginez pas qu'un maire puisse dire « Tiens, je vais expérimenter de mon côté, la Constitution m'en donne le droit, tel dispositif, distribuer les aides différemment, les paramétrer différemment. » Non, il doit être habilité par le législateur, le Parlement écrit une loi, la vote, en désignant « On va expérimenter tel domaine, mais des collectivités doivent se porter candidates. » Ensuite, l'expérimentation, elle est menée, elle est évaluée au bout de 5 ans. Et si elle a réussi, elle est généralisée à toutes les collectivités, donc par exemple à toutes les communes, elle ne peut pas être circonscrite à celles qui l'ont seulement expérimenté. Donc il n'y a pas moins de 9 contraintes pour mettre en œuvre ce droit à l'expérimentation, ce qui fait qu'il est resté lettre morte. Or, il répond
lettre
à...
Lettre morte, vous exagérez un tout petit peu. Alors, il y a eu un rapport du Conseil d'État le mois dernier qui fait un bilan de ces expérimentations depuis 2003. Bon, c'est vrai que ce n'est pas énorme. Il y en a 269 qui ont été menées. Pas seulement sur les communes, hein, c'est-à-dire sur l'ensemble des collectivités territoriales. Il y en a 153 qui sont en cours, quelques-unes qui ont été abandonnées. Il y en a quand même qui existent de ces expérimentations.
Elles existent, mais il y a deux types d'expérimentations et il ne faut pas les confondre. Il y a les expérimentations transfert, où l'État décide à caractère expérimental de transférer une compétence pour voir ce que ça donne. Hein, donc ça, c'est à l'initiative de l'État.
Ça peut être quoi, par exemple ?
Ça peut être le fait que des collectivités, des communes vont investir dans du matériel lié à des voies de chemin de fer secondaires. Bon. Ensuite, donc ça, c'est l'État qui en a l'initiative, qui, au regard des compétences qu'il a envie de transférer, de voir s'appliquer, il le décide. Mais de la part des collectivités, que ça émane du bas vers le haut, il n'y a quasiment pas de marge de manœuvre, puisqu'il doit y avoir habilitation par le parlementaire. Et une des perspectives de réforme de ce droit à l'expérimentation, c'est au moins de ne pas généraliser l'expérimentation. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut très bien marcher dans telle zone géographique, mais pourquoi, si elle a réussi là, vouloir la généraliser ? Que les collectivités qui ne l'ont pas encore mise en place s'en emparent ou ne s'en emparent pas si elles ne le jugent pas nécessaire.
C'est d'ailleurs ce que relève le Conseil d'État. J'y reviens à ce rapport. Il dit l'issue de l'expérimentation est binaire. Soit la mesure test est généralisée, soit elle est abandonnée. Ce qui manque, c'est un peu ce juste milieu qui ferait qu'on garderait, on pérenniserait l'expérimentation, mais sur un territoire local réduit.
Exactement. C'est l'idée. Et on n'est pas loin, là, on frôle la notion de différenciation. On ne va pas donner les mêmes médicaments à des territoires qui ne souffrent pas des mêmes faiblesses. Donc si l'expérimentation fonctionne ici, elle peut ne pas fonctionner là parce que l'origine de telle ou telle défaillance n'est pas la même. Donc il y a un besoin de flexibilité et puis un besoin de laisser respirer normativement. C'est-à-dire qu'on a des lois extrêmement bavardes, j'y reviens à chaque fois que vous m'invitez, des lois qui d'ailleurs pose un cadre, mais elle donne tellement d'exceptions qu'on finit par se dire, mais pourquoi ne pose-t-elle pas des principes et donnant un pouvoir réglementaire accru aux collectivités, aux maires selon les champs de compétences, voire aux régions, voire aux départements. Est-ce qu'il est de ressort de législateur national d'aller s'intéresser à l'ouverture des bibliothèques le dimanche dans tel village ou l'ouverture des magasins par exemple le dimanche ? Est-ce qu'il n'a pas mieux à faire en tant qu'État garant ou en tant qu'État chargé du régalien ?
Vous nous dites donc, Laurence Lemouzy, que cette expérimentation telle qu'elle existe dans la Constitution depuis 2003, c'est une fiction. Ça n'empêche pas pour autant qu'il y ait un observatoire de l'expérimentation et l'innovation locale à la Fondation Jean Jaurès. Antoine Dulcère a rencontré son directeur, Nicolas Bouillon. Il évoque d'autres obstacles justement à la mise en place de ces expérimentations locales.
L'exemple parfait, c'est l'expérimentation qui a été lancée en 2016, qui s'appelle Territoire zéro chômeur longue durée. C'est une expérimentation en cours. Et le premier bilan qu'on peut faire, c'est que ça fonctionne avec quand même des difficultés sur l'évaluation. Il y en a trop, ce qui fait que ça bloque presque le système. Et un problème aussi sur l'aide, puisque nécessairement, pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'il y ait une aide financière. Sinon, les maires ne peuvent pas prendre en charge, je veux dire, parce que nécessairement, toute expérimentation, toute alors innovation même, ça a un coût. Après, il y a de multiples autres expérimentations. Le maire de Los Angeles vient de mettre en place un revenu universel, et ça, il peut le faire, puisqu'il est dans le cadre de ses compétences et qu'il ne porte pas atteinte à un principe. Par contre, il y a des départements, 18, qui ont souhaité mettre en place un revenu de base et le tester. Comme ça portait atteinte au principe, ils ont été obligés de passer par une loi qui a été refusée à l'Assemblée. Ce qui montre bien les difficultés. C'est-à-dire, tant que vous êtes dans vos compétences, finalement, vous pouvez le faire, et je pense qu'il faut le faire, puisque c'est une méthode nouvelle. Dès que vous voulez déroger à un grand principe, vous êtes bloqué, et la Constitution, en fait, n'apporte pas vraiment de réponse, puisqu'il y a tellement de contraintes que ça ne fonctionne pas.
Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de Laurence Lemouzy au Congrès des maires de France. Vous êtes la directrice scientifique de l'Institut de la gouvernance territoriale, rédactrice en chef de la revue Pouvoirs locaux. Une réaction aux propos du directeur de l'Observatoire de l'expérimentation et de l'innovation locale à la Fondation Jean Jaurès.
L'expérimentation qui est en train d'être menée sur territoire zéro chômeur est un très très bon exemple, parce que là il s'est agi selon le principe de subsidiarité de trouver des solutions depuis le terrain, et les collectivités mais aussi l'État a dit ok, on y va. Il y a eu 14 et quelques territoires expérimentés, il y en a 90 en liste d'attente, donc on voit que D'ailleurs, en surface, il y a une France qui paraît immobile, mais toutes ces initiatives font que ça bouge énormément et que ça donne des résultats pour peu qu'on laisse une respiration, notamment normative, de s'organiser.
Qu'est-ce que c'est la subsidiarité, Laurence Lemousie ? Pourquoi dites-vous qu'il manque une culture de la subsidiarité
en France ? Parce que je pense que, si on revient quelques instants sur le terme de décentralisation, le terme décentralisation, il est usé, il est vieux, il est daté. Je pense que il y a encore certainement des transferts de compétences ici et là à faire. Mais davantage, c'est un changement de maturité, de mentalité qui nous permettrait d'aller vers une culture de la subsidiarité. La culture de la subsidiarité, c'est se dire, mais laissons agir celui qui est le mieux placé en proximité pour agir. Et le niveau supérieur n'interviendra que si cet acteur proche est en faiblesse. Il faut véritablement arrêter d'avoir des politiques qui descendent, mais plutôt une façon de voir l'action publique ascendante. Et puis surtout, c'est qu'il y a l'action publique portée par la puissance publique, mais la subsidiarité, elle donne aux actions libres, aux actions des citoyens, aux actions des acteurs de terrain, une grande respiration et des marges de manœuvre pour tester, pour tâtonner.
Oui, mais sauf que ça va totalement à l'encontre de la culture politique à la française.
Eh oui, mais c'est bien là où on se retrouve, on est au point de bascule, où on est au bout du bout de la décentralisation. La décentralisation est un mouvement qui a donné de la liberté, qui a fait bouger les lignes, qui a permis de moderniser le pays. Aujourd'hui, il faut un changement qui est d'ordre des structures mentales chez les acteurs de l'État, y compris chez les collectivités locales et dans la société française. D'ailleurs, les épisodes sociaux un peu agités, on sentait qu'il y avait un besoin de citoyenneté active, de reprendre main un peu aussi sur son destin, que ça vienne de la base et pas seulement qu'on impose des cadres qui ne libèrent pas en définitive les initiatives.
Une façon d'ailleurs de faire remonter des choses de la base, c'est alors ce dispositif qui semble de plus en plus répandu dans un certain nombre de communes, qui est celui des budgets participatifs, Laurence Lemousie. Alors je ne sais pas si là on est dans l'expérimentation, mais enfin en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui permet aux maires d'avoir, si ce n'est un pouvoir plus grand, un pouvoir peut-être davantage légitime ?
Les budgets participatifs sont un très très bon exemple parce qu'ils mettent en œuvre cette citoyenneté active, c'est-à-dire l'idée de portez-nous des projets, vous qui avez envie de faire des choses, ne soyez pas seulement des contribuables, des consommateurs de services publics, mais participez en étant moteur, en mettant en œuvre des suggestions, dites-nous ce qu'il faut faire, travaillons ensemble. Parce qu'en définitive, toutes les dernières lois, de 2010 à 2019, avec le grand train législatif de 2014 et 2015, ont bâti encore des cathédrales institutionnelles, des dispositifs, on a tiré sur le tissu, on a agrandi les mailles des régions, agrandi les mailles des intercos, mais ça ne change rien au contenu des politiques publiques. Or, qui connaît mieux peut-être les priorités qui doivent être mises en place en termes de services publics que les bénéficiaires, c'est-à-dire les citoyens. Le budget participatif est une voie qu'il faut suivre, d'ailleurs, y compris dans les départements qui viennent de tester à l'échelle départementale ce type d'initiative avec des succès et une redynamisation d'endroits qui se sentaient un peu en délaissement.
Vous qui observez de près tout au long de l'année, Laurence Lemousie, le travail des maires, est-ce que vous diriez que ce qu'ils attendent, c'est d'abord justement d'avoir davantage de remontées et de contacts avec leurs concitoyens, ou bien c'est d'avoir davantage de capacité à agir, davantage de souplesse que pourrait leur octroyer l'État? Parce que on part du principe que les maires veulent davantage de pouvoir, mais peut-être qu'ils sont aussi très sécurisés par le cadre que leur offre la loi, et que finalement, quand il y a la loi qui vous assiste, vous êtes peut-être plus mieux protégé, disons, que si vous allez vraiment dans des expérimentations qui peuvent être un peu dangereuses.
Ils sont en attente d'une capacité d'agir plus fluide. Il ne faut pas aller toutes les 5 minutes chercher la réponse dans le Code général des collectivités locales pour savoir ce qu'on peut véritablement faire sans prendre trop de risques juridiques. Il y a un besoin d'avoir des directions claires, mais vraiment un besoin de marge de manœuvre important. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a surprise. Sur le ministère de l'Économie a mis en place France Expérimentation. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité pour les entreprises de se manifester auprès des pouvoirs publics pour, si jamais leur activité est empêchée par des dispositifs réglementaires trop contraignants. On ne peut pas innover parce qu'il y a telle loi, il y a tel dispositif. Mais en fait, les maires ne demandent que ça, c'est de pouvoir déroger à des principes qui les entravent. Il y a beaucoup trop de contraintes pour expérimenter, pour donner une réponse immédiate, alors que le bon sens voudrait qu'elle soit de telle sorte. Il faudrait qu'ils puissent avoir cette capacité, eux aussi, à dire « Libérez-nous, on a notre bon sens, et surtout, faites-nous confiance ».
Alors on va voir justement ce qu'en pense un des représentants des maires de France. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Ça n'est pas vous le représentant, mais c'est Philippe Laurent qui est le maire UDI de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et que vous avez rencontré à l'occasion de ce congrès des maires de France.
Oui, Philippe Laurent qui est aussi secrétaire général de l'Association des maires de France. Alors donc je l'ai interrogé. Selon lui, c'est d'abord la question de la participation citoyenne dans la vie publique locale qui pose question aujourd'hui avec un paradoxe. Beaucoup de demandes s'expriment et on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes. Ce n'est qu'un exemple, mais pour articuler cette demande de façon concrète, les choses deviennent parfois plus compliquées.
La participation elle-même n'est pas forcément très importante parce que, évidemment, tout le monde est confronté à ses propres contraintes. Et ça, c'est un vrai défi. Ça veut dire qu'il faut d'abord s'organiser les choses, et ça veut dire qu'il faut aller vraiment les chercher en leur disant ce qui va se discuter là, l'aménagement de telle rue ou l'aménagement du centre-ville ou l'environnement, quelle décision on prend localement sur l'environnement, sur des questions environnementales. Eh bien, il faut vraiment leur dire qu'on a besoin de leur avis.
Deuxième grande série de problèmes posés aux maires, les questions relatives aux finances des mairies. Avec la suppression annoncée de la taxe d'habitation, les élus vont devoir trouver d'autres ressources. Et la question posée pour les mairies n'est pas uniquement financière.
La démocratie et la République reposent d'abord sur le consentement à l'impôt. Au-delà de ça, cette suppression de la taxe d'habitation pose évidemment des difficultés de compensation, c'est-à-dire par quoi on remplace et surtout par quoi on remplace à long terme. Est-ce qu'on remplace la taxe d'habitation, qui est un impôt qui avait une certaine dynamique, puisque la dynamique était simplement constituée par l'augmentation des constructions sur telle ou telle collectivité, telle ou telle commune, est-ce qu'on remplace par un impôt qui aura, ou par une ressource en tout cas, qui aura la même dynamique ?
Et pour remettre plus globalement les maires au cœur de l'action publique locale, deux projets de loi majeurs sont au programme des débats du Parlement. La loi dite 3D, déconcentration, décentralisation, différenciation, qui sera débattue après les élections municipales. Et surtout la loi dite engagement et proximité, discutée en ce moment même, qui doit corriger les problèmes posés par la réforme territoriale de 2015, notamment pour ce qui concerne les intercommunalités.
Aujourd'hui, c'est une intercommunalité qui est considérés par de nombreux maires comme subis, c'est-à-dire on leur a imposé un périmètre, on leur a imposé les compétences à transférer. Et ça, c'est un élément important aussi du malaise des maires que nous connaissons. Et donc le gouvernement s'était engagé à assouplir, ou en tout cas à gommer ce qu'on appelle les irritants de la loi NOTRe, qui est la loi de 2015, qui a fait basculer l'intercommunalité d'une certaine manière. Et aujourd'hui, le texte qui est en discussion, il était relativement satisfaisant lors de son dépôt par le gouvernement. Il a été examiné au Sénat, nous l'avons enrichi et aujourd'hui il se retrouve à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, là on est en pleine discussion, l'Assemblée nationale est en train de détricoter ce qu'avait fait le Sénat. Mais c'est un texte quand même qui est important, qui a joué un rôle dans, sinon le rétablissement, mais le réchauffement des relations entre l'État et les collectivités locales. Il y a un autre texte qui doit arriver après les élections municipales, le texte 3D, déconcentration, différenciation, décentralisation. Mais ce texte-là, il est quand même encore très 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 flou. Certains en fait assimilent décentralisation et finalement déconcentration. En gros, les collectivités locales sont les exécutifs, les exécuteurs des décisions de l'État, sont des sous-traitants de l'État, et d'autres qui vont jusqu'au fédéralisme, qui n'a rien à voir avec la culture française, qui est une culture malgré tout centralisatrice. D'autant plus que s'ajoute à ça les conséquences en fait de la définition de la décentralisation qu'on donne, les conséquences en matière précisément de partage des ressources publiques.
Voilà, c'était un tour d'horizon donc des problèmes très concrets posés aux maires, dressés par Philippe Laurent, maire UDI de la ville de Sceaux.
Et j'ai vu que vous avez pris quelques notes pendant ce tour d'horizon du maire de Sceaux, Laurence Lemousie. Évoquons peut-être alors justement ce projet de loi qui est en cours de discussion, projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Il y avait la nécessité, après la mise en place de ces intercommunalités, de rectifier certains déséquilibres qui ont été causés par ces grandes structures et qui font que le pouvoir des maires, notamment des petites communes, a fini par se diluer dans ces organisations.
Oui, c'est notamment vrai pour les maires des communes de moins de 2000 habitants qui constituent un volume important de communes qui se sont senties complètement dépossédées des élus de deuxième zone qui ne participent que très peu aux délibérations des assemblées intercommunales qui pourtant sont très dont les décisions sont assez structurantes pour leur territoire. Donc il y a eu, comme Philippe Laurent l'a rappelé, un peu des dommages collatéraux des lois MAPTAM et des lois NOTRe. Il s'agissait de modernisation et affirmation des métropoles et de l'action publique.
Voilà, et NOTRe, c'est nouvelle organisation du territoire.
Territoriale de la République. Donc il y a un peu un texte quand même très très dense qui va de la tarification sociale de l'eau par les maires en passant par une liberté retrouvée de décider des zones d'activité économique par exemple. C'était des domaines qui étaient partis pour la plupart du temps au niveau de l'intercommunalité. C'est des choses toutes simples, permettre de demander par exemple au préfet le pouvoir de fermeture d'un débit de boissons qui ne respecte pas la réglementation. C'est des micro-pouvoirs, on parle de super-pouvoirs, là ce sont des micro-pouvoirs mais qui étaient entravés et qu'il s'agissait de rétablir.
Et la loi 3D ?
Alors la loi 3D, c'est assez flou.
Je rappelle, déconcentration, ouais. Différenciation, décentralisation, ouais. C'est très bureaucratique comme
c'est vocabulaire. C'est sous la forme du slogan, ça fait très Startup Nation, le 3D, ça fait très numérique, mais on ne voit pas très bien.
Je ne sais pas si ça donne très envie
d'investir dedans. Non, ça ne donne pas forcément très envie. C'est plutôt un effet de style. C'est dommage qu'il n'y ait pas un S de subsidiarité parce qu'on attendrait que cela. C'est vraiment pointillé. D'ailleurs, le discours du président de la République au Congrès des maires a été très très flou. Il a dit ce que faisait l'État, territoire d'industrie, l'aménagement des centres-bourgs, les questions des maisons de services publics. Mais de son rapport et de la confiance à tisser entre collectivités et État, on n'en a pas entendu beaucoup parler. Et puis c'est vrai qu'il y a un problème majeur dans l'histoire de la décentralisation française, c'est comment on fait rythmer ensemble décentralisation et pays unitaires. Décentralisation et pays jacobins, décentralisation et État très centralisé. Ça peut être qu'en demi-teinte, ça peut être, alors on ne va pas aller faire le fédéralisme, mais l'idée, j'espère que ce sera l'occasion pour lors du projet de loi 3D, c'est jusqu'où va-t-on pousser le curseur, qui ne nous emmènera pas vers le fédéralisme, ce n'est pas notre histoire, mais peut-être vers des régions un peu plus matures politiquement, vers un pouvoir normatif régional. Il faut qu'on se libère et qu'on essaye de penser une structuration quand même assez, assez différente. Depuis 82, il n'y a pas grand chose, si ce n'est des ajustements qui se sont passés.
Et bien c'est sur cet espoir de libération que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Merci beaucoup Laurence Lemouzy. Je rappelle la revue Pouvoirs locaux qu'on peut trouver en kiosque.
En kiosque, chez
et
les
dont
bons
vous
libraires.
Fêtez voilà, le 30e anniversaire. Vous en êtes la rédactrice en chef politique. C'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Somanina et Laurent Polleré, avec à la prise de son Yves Lehors et Gilles Gallinaro. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Je vous retrouve lundi matin à 8h45 pour la transition dans les matins de France Culture. À 12h45, la suite dans les idées de Sylvain Bourmeau. Et dans un instant, le journal de 12h30.